VFM présente Associativement Votre, le rendez-vous des associations de notre territoire.
Bonjour, c'est Annette. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Associativement Votre, l'émission qui donne la parole au tissu associatif de notre territoire. Nous sommes ensemble pour 30 minutes et aujourd'hui, accompagnés de Bruno à la technique, nous avons le plaisir d'accueillir devant nos micros Monsieur Rémi Chauvet qui est le président de l'association ADAD, ainsi qu'accompagné de M. Henri Trémois, qui est membre de l'association. Messieurs, je vous souhaite le bonjour.
Bonjour. Bonjour. Alors, ADAD, ami d'Antoine Diouf, Albin Durand.
Exactement. Alors, dites-moi, pour nos auditeurs, qui est Albin Durand, qui est Antoine Diouf?
Alors, Albin Durand, c'était un paysan de Sarriens. Bon, il est né à Aubignard, mais un paysan qui s'est installé à Sarrien,
oui.
Qui a créé une coopérative de pépinières et qui a créé également le Crédit Agricole,
oui.
Pas le Crédit Agricole actuel, mais le Crédit Agricole de ce temps-là, où on prêtait assez facilement aux paysans qui étaient dans la difficulté, ou qui étaient plutôt dans les difficultés, puis remboursés assez rapidement.
Oui.
Ensuite, il a été, avant un sportif aussi. Il a créé en 36 le sport populaire sarrianais. Et ensuite, il a été vu la conjoncture qu'il y a eu, interdit. C'est un élu aussi du Parti communiste. Et il a été interdit ensuite en 39. Voilà, donc après, il a été clandestin, si on peut dire ça.
Exact.
Et donc, c'est rentré dans la résistance sur Sarrien, sur le maquis ventoux.
Alors, je t'interromps. Sur le maquis ventoux et chez les FTP.
Parce que
le maquis ventoux était un maquis de l'AS. Donc, il est... un des deux fondateurs de la filière du maquis ventoux à partir de Sarrien, mais il est aussi le fondateur à Sarrien du Front National de la Résistance, rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui,
oui, exactement.
Le Front National, et donc qui est devenu ensuite, dans sa partie armée, les FTP, francs-tireurs et partisans.
D'accord. Alors, Albin Durand, on connaît un petit peu. Parce
voilà, c'est très rapide quand même ce que j'ai dit, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Albin.
Mais il est un peu connu parce qu'il y a quelques rues un petit peu partout, à Carpentras et ailleurs.
Voilà, il y a boulevard à Carpentras, il y a une place ou une rue à Aubignan, il y a un boulevard à Sarrien, un boulevard à Orange, à Avignon, Caderousse.
Cavaillon.
Cavaillon, voilà.
Par contre, Antoine Diouf, on le connaît beaucoup moins quand même.
Alors Antoine Diouf, on le connaît moins. C'est pas un Vauclusien. C'était un jeune d'origine africaine. Sa mère était immigrée africaine à Marseille. Donc il est né à Marseille. Et puis à 14 ans, sa mère étant morte quand il était très jeune, je crois qu'il avait 3 ans, il était placé chez les curés à Marseille. Et puis il a été ensuite placé dans les fermes à partir de 14 ans. Et donc il est allé un peu partout. Il est allé dans le Vaucluse, il est allé dans le Gard, il est allé dans l'Isère, il est allé dans la Drôme. Où il a fait l'ouvrier agricole, jusqu'au moment où, début des années 30, il est venu une première fois à Sarrien, et puis il est reparti ailleurs, et puis il s'est retrouvé vers 1938, je crois, chez Albin Durand. Et là, sa vie a changé, parce que ailleurs, il était surexploité, pas respecté du tout. Et chez Albin Durand, il est devenu un camarade parce qu'il était adhérent du Parti communiste lui aussi. Et puis, il est devenu surtout un espèce de fils de la famille.
Oui.
Voilà. Puisque c'était un jeune orphelin et que là, il avait trouvé une famille avec deux jeunes filles qui étaient dans la famille déjà, Albin Durand et sa femme Albine.
D'accord. Donc,
et c'était un... Il chantait.
Oui.
Donc il était ouvrier agricole, mais il chantait. Et il a été instructeur dans le maquis parce qu'il avait fait son service militaire comme caporal, je crois. Et donc, il est devenu instructeur dans le maquis.
Oui. Alors, moi, j'étais très curieuse parce qu'il chantait. Vous avez dit une chanson qui s'appelait la Chupeta. Et je suis allée chercher. Mais j'ai trouvé une Chupeta, moi, qui avait été chantée par Maurice Chevalier. Je ne sais pas si c'était la même. Alors j'ai écouté. Mais je ne sais pas, parce qu'il y a eu une petite... la Chupeta avec un T, alors que Maurice Chevalier, c'est la Chupeta, il n'y a pas de T devant. Ah, mais je n'ai pas trouvé de Chupeta, parce que j'ai cherché un petit peu partout. Et voilà. Alors, Antoine Diouf n'avait jusqu'à présent pas d'endroit où on l'avait commémoré. Pas du tout. Et je pense que vous avez pallié à ce problème.
Alors, il existe une avenue à Sarriant depuis, on va dire, une dizaine d'années, peut-être un peu plus. Une avenue, donc, à Antoine Diouf. Et depuis 2 ans, il existe l'espace de covoiturage en bas de l'hôpital, à Carpentras, quand on sort de l'hôpital, là. Juste en bas, il y a une place où on peut se garer, et ça s'appelle l'espace Antoine Diouf.
D'accord.
Alors, il faut dire qu'à la Libération... Il y a eu une rue Antoine Diouf à Carpentras,
oui.
Mais c'était une rue sans habitation. Et je crois même qu'à un moment donné, elle a dû être coupée donc elle était en déshérence. Il n'y avait plus, on ne savait plus.
C'est une rue qui était presque en face de la police maintenant.
D'accord.
Et elle a été, ils se sont servis comme il n'y avait pas d'habitation, ils se sont servis de stationnement. Et puis, ça a été fermé d'un côté, fermé de l'autre. Et puis, voilà, ça a un peu disparu.
Exactement. Donc, écoutez, alors, on a parlé d'Antoine Diouf et Albin Durand. Moi, je voudrais qu'on parle d'une journée importante, le 1er août 1944. Que s'est-il passé ce jour-là? Dites, qui c'est qui... Alors...
Je vais commencer, et puis Henri continuera. Le 1er août, déjà la journée a commencé par ce fameux commando qu'on dira de tueur du PPF.
Parti populaire français.
Voilà, le populaire français avec des membres de la Gestapo également.
Anticommunistes
surtout anticommunistes.
Anticommunistes, antisocialistes, antisyndicaux, tout ce que vous voulez.
Anti-tout.
Voilà, anti-tout.
Anti-tout.
Voilà. Donc ce commando a commencé en début de journée à Malocène, était à la recherche aussi de résistants. Ils ont arrêté quelques résistants à Malocène. Alors ça aussi c'est une longue histoire, parce que la veille il y avait eu un avion qui était tombé, donc les gars étaient venus, s'étaient rassemblés un petit peu pour veiller le pilote qui était mort. Donc ils sont tombés sur eux et ils ont arrêté ces résistants. Ensuite, là, le commando, même s'ils se sont un peu séparés parce qu'ils ont ramené tout ça à Avignon, est passé par Violès, par le nord, par Vaison, pour aller à Violès, parce qu'ils avaient peur que sur le tunnel du Barou, ça craigne un petit peu, donc ils ont passé par-dessus. Et à Violès, ils ont tué un résistant aussi, Claude Gaillard. Et ils ont terminé la journée, la soirée, sur Sarriant, avec les interrogatoires, les arrestations, les interrogatoires, tout ça, sur la place de Sarriant. Et ensuite, passage après à Antoine Diouf, Albin Durand et la famille à la ferme.
Oui, oui.
Alors, c'est rapidement dit, ça.
Oui,
je peux apporter quelques précisions.
Oui, oui, oui.
Donc, ce commando, il est constitué à Avignon. Il est constitué à Avignon, en fait, à la demande d'une famille de collaborateurs de Sarriant, dont la femme, Madame Théophilides, est présidente locale du PPF,
exact.
Du Parti populaire français, un parti nazi, mais français. Et donc, cette personne et sa bonne se plaignent du fait qu'il y a trop de résistants et trop de communistes à Sarriant et qu'il faut faire le ménage. Comme la petite bonne et la maîtresse du chef de la Gestapo d'Avignon. Si vous voulez, ça permet de faire le lien. Et finalement, un groupe est monté par le PPF. Alors, c'est un peu compliqué à comprendre parce qu'on parle de Gestapo, on parle de PPF. En fait, le PPF, donc ce parti d'extrême, extrême droite, collaborationniste, certains de ses membres sont tellement proches des nazis qu'ils sont membres français de la Gestapo.
D'accord. Okay.
Et donc, le groupe est constitué uniquement de membres du PPF, mais certains membres de la Gestapo, d'autres membres de certains organismes allemands, etc. Tous français. Et à Sarian, ils viennent alors que Sarian, pendant deux ou trois périodes de la guerre, Sarian était occupé pendant quelques mois. Et à ce moment-là, il y a une division allemande à Sarian qui va donner un coup de main à ce commando. Mais ce sont les Français, membres de la Gestapo, qui commandent, qui dirigent les opérations et non pas les Allemands.
Voilà.
Les Allemands sont quand même là en appui.
Appui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Enfin, votre association, elle est née. En fin de compte, ça, au départ, les gens ne le savaient pas, en fin de compte, au 1er août, ce qui s'est passé véritablement, si.
Ben, ce qui était la légende.
La légende disait.
La légende, c'est deux résistants ont été massacrés par les Allemands.
Voilà, c'est ça.
En fait, il y a quatre personnes qui ont été tuées ce jour-là.
Oui.
Deux personnes qui ont été tuées par les Allemands, qui assuraient, si vous voulez, la sécurité du groupe de tueurs.
Bien sûr, hein.
C'est ça. Mmh.
Et puis, donc, quand les deux personnes ont fait mine de s'enfuir et ont été tuées, donc Paul Roux, qui venait en aide à un jeune qui avait été blessé. Et puis,
Lucien
Farreau, qui était un résistant, qui était agent de liaison, qui apportait des informations sur Sarian, et il s'est trouvé au mauvais moment. Donc il a appuyé sur les pédales, et là, ils lui ont tiré dessus, il est mort le lendemain. Voilà. Donc, ces deux personnes sont mortes sous les balles allemandes, et puis ensuite, il y a eu donc le massacre à la ferme Durand, massacre de deux personnes, torture, etc., pour leur arracher des informations.
Bon. En 2004, les archives ont été livrées au public,
ouais,
parce qu'il y a toujours une soixantaine d'années pour éviter les problèmes qu'on peut avoir. Vous avez travaillé d'arrache-pied, vous avez été chercher des archives de partout, j'ai vu.
Oui.
Derrière le livre, vous avez fait plein de départements pour trouver...
On a mis 12 ans.
12 ans
de recherche.
12 ans de recherche pour sortir un livre que je voudrais que tout le monde puisse acheter. Parce que franchement, il s'appelle Fait et Cause, les amis d'Antoine Douf et Albin Durand, Fait et Cause, Sarian 1er août, un village dans la tourmente. C'est de l'histoire. En fin de compte, vous faites la lumière sur des faits qui se sont passés ce jour-là.
Ouais.
Vous avez sorti un bouquin qui est plein d'anecdotes, plein de photos, plein de plein de papiers. C'est un boulot monstre que vous avez fait. Vous êtes auto-édité.
Oui, oui.
Alors, moi, j'ai une question. Comment vous avez fait? Dites-moi.
Comment on a fait?
Non, mais...
Bouquin, il a été fait dans le cadre d'un atelier d'écriture qui a duré 5 ans, entre 2011 et 2016. Donc, 13 personnes... De temps en temps, on était 8, 6,
oui.
12.
Oui, oui, j'ai su que vous étiez 20 à peu près, mais 8 véritablement.
Voilà. Il y a eu, je ne sais plus combien, 25 personnes qui ont participé aux recherches des 12 années.
25, c'est ça, ouais.
On avait de vieux interviews réalisées en 1981, sur lesquelles on s'est appuyé, qui nous ont servi de base. On a interviewé environ 80 personnes, des gens qui étaient encore en vie, qui avaient vécu les événements un peu partout. Et puis, on est allé aux archives départementales, dans différents départements, les archives de la gendarmerie, les archives de la marine à Toulon, etc. Ce qui nous a permis d'avoir une somme de milliers de documents qu'on a croisés, parce qu'il s'agissait de recouper les sources.
Exactement.
Quand vous trouvez une information aux archives, ce n'est pas la vérité. C'est la vérité de celui qui a produit l'archive.
D'accord.
Hein? Donc, ça dépend dans quel camp il est, etc. Donc, il nous a fallu recouper toutes les informations pour, mettre, pour couper court à cette légende.
Bien sûr. Voilà. Alors, on va se permettre de faire une courte pause musicale. Ouais. Mon ami Bruno, dis-nous, on va écouter.
Alors, on va écouter Corneille qui chante une pause.
Écoutez Associativement Votre, le rendez-vous des associations de notre territoire.
Associativement Votre, de retour toujours avec Monsieur Chauvet et Monsieur Trémois, hein, de l'association Les Amis d'Antoine Diouf et Albin Durand. Alors, je vous ai laissé tout à l'heure en disant, ben, vous avez sorti un bouquin, vous n'avez pas que sorti qu'un bouquin. Vous avez sorti 3 fascicules. Enfin, moi, j'appelle ça des fascicules.
Oui. Hein, c'est des fascicules, oui.
Vous êtes d'accord?
Oui.
Vous m'en voulez pas?
Non, pas du tout. On peut dire aux brochures. On peut dire aux brochures.
Brochures. Hein. Alors, il y a plusieurs. Bon, il y a celui-ci. C'est une jeune fille qui raconte. Comment elle s'appelle? Hélène Godet.
Hélène Godet.
Journal de Hans Gober, un jeune Allemand au camp des Milles. Mais ça, c'est romancé, je pense.
Oui.
Hein?
Oui.
Résister à 17 ans,
Voilà, c'est le dernier.
Et c'est le dernier qui est sorti. Je le garde celui-là pour la fin. À Valréas, 1942-1944. Vous n'allez pas perdre à raconter cette histoire au mois d'avril ?
Oui, on l'a déjà raconté à Valréas, à Sarrien, et la semaine dernière, il y a 3 jours, à Grillon. Alors Grillon, ça se trouve dans l'enclave des papes.
Oui.
Voilà. Donc, voilà.
Donc, à Pernes-les-Fontaines, je crois que c'est vers, je ne sais pas, le mois d'avril, je ne sais pas quand.
Le 1er avril.
Le 1er avril. Et je pense que c'est à la médiathèque.
À la médiathèque de Pernes.
Oui. Bah, je souhaite à tout le monde d'y aller. Et j'ai gardé celui-là. Un petit peu à part, la sécu. On se dit, tiens, pourquoi la sécu ? Moi, j'ai posé la question. Le projet d'Ambroise Croizat, aux conquêtes de demain, tout se ramifie, en fin de compte. Hein. Et en fin de compte, Ambroise Croizat, c'était un ministre du Travail et de la Sécurité sociale qui a mis en place notre sécu, notre Sécurité sociale. Et en fin de compte, il y a une histoire aussi avec la famille d'Albin Durand. Et en fin de compte, tout ça se ramifie et tout ça se retrouve. Moi, je vous conseille d'aller les lire tous. Parce que franchement, vous en prendrez sur votre département beaucoup plus. Vous avez fait un travail d'enfer. Alors, je me suis dit, je vous ai posé la question tout à l'heure, comment vous avez financé tout ce que vous avez fait là ?
Alors, on l'a financé tout simplement par souscription. C'est-à-dire que le livre, on l'a pré-vendu avant d'aller chez l'éditeur, d'aller chez l'imprimeur.
Chez l'imprimeur.
Et donc, quand on est arrivé chez l'imprimeur et que le livre nous a été livré à 800 exemplaires pour la première édition, eh ben, on a payé cash. Parce que les gens avaient pré-acheté en souscription le livre. C'est tout simple.
Tout simple. Ouais, ben j'aimerais bien qu'il continue à être acheté parce qu'il vaut vraiment le déco. En plus, il est préfacé par un grand monsieur.
Oui.
Hein, on peut le dire. Un grand monsieur qui vous a préfacé votre livre, qui l'a adoubé, on peut le dire. Mmh. Hein, et donc, allez courir et l'acheter. Mais vous ne faites pas que ça, en fin de compte. Vous faites plein de choses dans cette association. Vous faites des conférences.
Oui, on a fait quelques conférences, oui. Déjà pour la présentation
des expositions.
Des expositions.
Il y a des films qui sortent aussi. Racontez-moi tout. Allez-y, lâchez-vous.
Alors, bon, les rencontres, c'est vrai qu'en 2012, on a créé les rencontres vauclusiennes du film de résistance. Donc là, donc chaque année, il y avait des thèmes différents, des intervenants différents, des rencontres avec des personnes très, très intéressantes.
Oui.
Et qui reviennent. Cette année, on essaie de faire les 10e rencontre, qu'on aurait dû faire déjà il y a 2 ans.
Sauf que le
Covid nous a pas aidé. Et puis cette année, on a le petit truc. Est-ce qu'on y reviendra peut-être un petit peu plus après? On a fait des rencontres, on a fait des conférences, pour le livre, pour d'autres choses, sur Antoine, sur Albin. Sur d'autres sujets, ça ne me vient pas tout sur la tête là.
Là, vous avez des conférences. Il y a une conférence qui va avoir lieu le 4 février.
Le 4 février, voilà.
Alors, c'est plus une présentation de la brochure. Hein, avec, on espère, le principal protagoniste de la brochure, Valréas résisté à 17 ans, qui est Claudius Var. Un jeune monsieur de 98 ans participe très activement à la diffusion de la brochure que nous avons fait, on va pas dire à son sujet, mais au sujet du groupe FTP qu'il a créé à Valréas en 1942.
Mmh. D'accord, ok. Il y a autre chose, moi. On en a parlé l'autre jour. En 2017, au stade de la Roseraie, vous avez inauguré une stèle où il y a 6 noms dessus de rugbyman.
Oui.
Hein, j'ai pas réussi à l'écrire, rugbyman. Pourquoi? Et expliquez-moi. Expliquez-moi cette histoire, parce qu'il y a une histoire derrière.
Voilà, mais dans nos recherches, donc, on a recherché à Toulon, aux archives, etc., mais on a recherché ici, localement ici, au Conservatoire du patrimoine sportif à Carpentras.
Oui.
Cher notre ami Jean-François Brun. Et donc, j'ai fait des recherches là sur ça, sur le truc. Et comme Albin Durand était un joueur de rugby, donc il a découvert le rugby à Toulon quand il a, avant qu'il parte, qu'il s'engage dans l'armée. Ensuite, quand il est revenu ici sur Aubignan, il a joué au rugby pendant quelques années à Carpentras. C'est un excellent joueur, un demi de mêlée, etc. Et donc, dans ses découvertes, on s'est aperçu qu'il y avait une stèle qui avait été faite en 1947 au stade de la Roseraie.
C'était... Une stèle ou une statue ?
C'est une stèle. Une stèle avec une statue, bon, qui faisait 4,50 m de hauteur,
ouais.
Qui était au coin, qui est maintenant à l'endroit du parking qui est derrière le stade de la Roseraie, qui avait été faite justement en 1947 à l'inauguration du stade de la Roseraie pour commémorer les 6 joueurs de Carpentras tués pendant la Deuxième Guerre mondiale,
ouais.
Dont Albin Durand. Il y avait Blanc, je dois avoir la liste quelque part là. Blanc, Lyotard, Froment, les noms ne me viennent plus.
C'est pas grave.
Voilà, donc il y a 6 noms. Et cette stèle, pendant les travaux, a été déplacée. Ils ont voulu la déplacer, mais ils l'ont cassée. Donc,
et elle est où?
Elle est où? Sûrement quelque part.
Alors,
à moins qu'elle serve de...
On va lancer un appel cet après-midi. Qui sait où est la statue?
Bon, la statue, je crois que c'est
bien... On ne sait jamais. Voilà. On ne sait jamais. Il y a peut-être un auditeur qui va dire « Ah, mais je sais, moi !»
Au rugbyman mort pour la France.
Voilà. Et donc,
on s'est attelé à ce qu'on fasse quelque chose pour remplacer ça. Donc, on a demandé, bien sûr, à la municipalité de Carpentras s'ils voulaient nous refaire une stèle de ce genre. Bon, ils nous ont dit ça viendra peut-être un peu cher. Donc, on peut faire peut-être une plaque. Ah, ben alors, on fera une plaque. Donc, il existe depuis 2017 une plaque qui est sous le préau du... Enfin, c'est pas un préau, non, mais c'est je ne sais plus comment on appelle ça, là, où les joueurs se réunissent, tout ça, les spectateurs, tout ça, qui prennent le petit verre de l'amitié en partant. Et là-dessous, il y a les 6 noms qui sont sur cette plaque. Oh. Et on essaie de commémorer ça tous les 27 avril.
Oui.
Voilà.
Et ça, c'est extraordinaire. Le devoir de mémoire, il est important, moi, je trouve.
Voilà.
Je pense que le 18 février, vous allez avoir votre film qui sort.
Alors, ce n'est pas notre film.
Ce n'est pas le vôtre, parce que j'ai regardé. Rome, ville ouverte, il a eu une ce qui correspondrait à une palme d'or aujourd'hui à Cannes.
Oui.
Alors, ce serait bien que vous ayez une palme d'or.
On pense que c'est le premier film de résistance qui était fait après-guerre. Le tout premier, il était fait pendant la guerre.
Pendant la guerre.
Au tout début, c'est Charlie Chaplin qui a fait le dictateur.
Le dictateur.
Mais le premier, c'était Rome, ville ouverte.
Ville ouverte.
Et c'est à la fois un film, c'est une fiction, mais c'est presque un film documentaire. Avec... il y a quoi, Mastroianni, etc.
Ah oui, oui, oui. Alors, oui, oui.
Je voulais juste dire que tout ce que vous faites en conférence, en truc, c'est toujours ouvert, c'est-à-dire que c'est toujours gratuit.
Oui.
Voilà, je tenais quand même à le dire.
Sauf les rencontres du film de résistance, où là, ça coûte cher, ça coûte très cher.
Oui.
Et donc là, il y a une entrée, mais pour le 18 février, le film est offert.
D'accord. OK. Bon, écoutez, messieurs, je suis désolée, mais notre émission va se terminer.
Alors, merci de nous avoir accueillis.
Alors, moi, je vous dis bravo. J'aime votre passion. J'aime votre façon de voir les choses. Franchement, j'ai aimé travailler sur votre bouquin. J'ai aimé vous rencontrer. Je vous dis, j'espère que ce bouquin va ressortir. Chers auditeurs, allez-y, achetez-le, faites quelque chose.
Juste un mot, le 4 février, nous avons une conférence avec Philippe Laborie, qui est professeur d'histoire au Collège de Perne, sur l'histoire et les négationnismes en histoire.
En histoire. Cher auditeur...
4 février à Sarrian.
Cher auditeur, je vous dis au revoir et au prochain numéro. Et si vous avez aimé, allez l'écouter en podcast, s'il vous plaît.
Merci.
Au revoir.
Merci. Au revoir.